Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et jusqu'à 20h, les débats de Panorama, puisque cette semaine, l'Europe tranchera de savoir si oui ou non, en 2035, les constructeurs automobiles ne pourront plus produire ni vendre de voitures thermiques et donc ne pourront plus construire que des voitures électriques à batterie ou à hydrogène. Excite les énergies carbonées, mais la voiture connaît des ultimatums depuis le Dieselgate de 2015 et des politiques anti-pollution sans cesse plus drastiques. Après cette nouvelle donne qui nous attend donc pour 2035, ne doit-on pas s'attendre à d'autres interdictions? C'est quoi le coup d'après? Plus de voitures du tout? Peut-être. On en parle ce soir avec Cécile Goubet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de l'AVER. Bonsoir à Françoise Rossignol.
Bonsoir.
Présidente du club des villes et des territoires cyclables et marchables. Au téléphone, nous sommes avec Arnaud Chéreau. Bonsoir. Vous êtes fondateur de Wello, qui produit des vélos cargo électriques. Bonsoir à Xavier Oran, directeur général de Mobiliance, acteur majeur de la filière automobile et des métiers de distribution. Et nous sommes très honoreux d'être avec Paul Belmondo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien coureur automobile, bien sûr, et la voiture, justement, cher Paul Belmondo, qu'est-ce que c'est la voiture aujourd'hui en 2022? C'est un objet assez étrange qu'on regarde avec nostalgie, qu'on va mettre bientôt dans les musées?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on va la voiture évolue, justement. Peut-être on veut la faire évoluer un tout petit peu trop vite, mais elle évolue. C'est vrai qu'on va vers une voiture beaucoup plus propre. Déjà, ça fait de nombreuses années que les constructeurs ont travaillé dans ce sens-là et essayent d'améliorer. Maintenant, certainement, certaines voitures, si en 2035, il n'y a plus de voitures thermiques construites, c'est sûr que nos anciennes voitures vont devenir des objets d'art et on les aura. On pourra rouler avec peut-être juste le week-end pour se faire plaisir.
C'est déjà le cas quand on organise, par exemple, le Mans Classique auquel vous allez y participer.
Tout à fait. Et on voit bien la passion que ça génère, justement, par le nombre de personnes qui participent, par le nombre de personnes qui viennent voir ces courses. Il y a plus de 200 000 personnes, et il y a plus de 5 800 clubs, plus de 1 000 concurrents qui viennent. Donc, il y a une vraie passion. Quand on regarde le prix des voitures également anciennes aux enchères, on voit bien qu'il y a une vraie valeur aussi sur ces voitures qui deviennent des vrais objets d'art. Mais on verra, il y a une évolution, notre monde évolue. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est que j'ai l'impression qu'on va aller très très vite et qu'on n'est pas encore prêt pour ça.
Vous avez l'habitude d'aller vite au volant d'une voiture.
J'ai l'habitude de voir vite, d'aller vite, oui, plus aujourd'hui, il y a longtemps. Mais voilà, on va.
Vous n'allez pas nous faire votre vieux combattant.
Non, mais si, bien sûr, en vieillissant, on mûrit, on change.
C'était quand le Mans pour vous? Rappelez-moi.
La dernière fois que j'ai fait le Mans, c'était les vraies 24 heures du Mans moderne, c'était en 2005. Donc ça remonte déjà.
C'était déjà au XXIe siècle.
C'était déjà au XXIe siècle. Mais vous savez, le Mans a toujours été en avance. Hein. Souvenez-vous, quand il y avait eu justement le premier choc pétrolier, ils avaient imposé une limitation, donc c'était dans les années 70, de la consommation d'essence. Donc voilà, et ça a toujours existé. Donc je crois qu'il faut essayer vraiment tous faire des efforts et on arrivera à avoir une voiture plus propre.
Je voudrais qu'on s'entretienne quelques instants avec Arnaud Chéreau et ensuite je vais pouvoir le libérer puisqu'il est au téléphone. Vous êtes fondateur, je disais, de Wello qui construit d'ailleurs de façon assez spectaculaire ces nouveaux modes de mobilité, ces vélos cargo électriques qui sont d'ailleurs modulables, c'est assez marrant. Arnaud Chéreau, question assez directe. Est-ce que vous voudriez un monde sans voiture dans les années à venir?
Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir des voitures ou de ne pas en avoir, c'est de pouvoir se déplacer de manière la plus décarbonée possible. On est face à des enjeux qui sont assez conséquents, on en est tous conscients, on est de plus en plus conscients avec les rapports à répétition du GIEC notamment. Après, la voiture est un outil formidable qui a permis énormément de choses. Aujourd'hui, Wello est une solution, une des nouvelles solutions de mobilité, qui prend les atouts du vélo cargo en permettant de se déplacer avec toutes les capacités légères, économes, faciles à stationner, et bon pour le portefeuille également, mais également avec les atouts complémentaires de l'automobile, avec une protection aux intempéries, avec sa carrosserie, avec une capacité d'emport, aussi bien pour les professionnels jusqu'à 350 kg que pour les particuliers avec deux places à l'arrière pour des enfants, par exemple, plus un coffre pour votre cartable, etc. Ou pour les collectivités, pour transporter notamment trois adultes et permettre des services complémentaires à des populations parfois seniors qui peuvent être assez éloignées des moyens de transport traditionnels. Donc, ce sont des outils aujourd'hui qui permettent d'avoir un champ d'action assez large. Vous avez parlé de sa modularité. Et la voiture, toute transparence, nous, on est implanté au Mans. On a démarré à l'île de la Réunion. On a cette particularité de venir de l'écosystème réunionnais. En étant implanté au Mans, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un territoire d'industrie automobile et d'excellence liée au sport automobile, qui sont des valeurs qui nous paraissent essentielles pour pouvoir développer les nouvelles mobilités.
Merci beaucoup.
Mais très clairement, aujourd'hui, on est passionné également par les voitures, par des courses comme Le Mans Classique, par Le Mans, les 24 heures du Mans, qui ont développé des innovations technologiques. Et je pense que le débat est pas forcément voiture ou pas de voiture, c'est plutôt comment utiliser les solutions de déplacement les plus légères possibles, les plus efficientes possibles, pour pouvoir éviter d'utiliser beaucoup d'énergie et parfois une énergie
partiellement
carbonée.
C'est très clair. Merci beaucoup Arnaud Chéreau d'avoir participé à cette émission. Cécile Goubet, quand vous avez appris cette décision européenne, d'ailleurs qui doit être validée dans la semaine qui arrive, comment est-ce que vous avez crié victoire, vous avez sabré le champagne, vous avez dit c'est chouette, on va avoir que des voitures maintenant thermiques, non thermiques, plutôt électriques et hydrogène.
Alors la question de la mobilité électrique face en fait aux objectifs climat, parce qu'il faut revoir un petit peu le contexte dans lequel s'inscrivent ces discussions au niveau européen, c'est de savoir en fait quelle est la temporalité pour complètement modifier le parc existant. Et il est assez clair que finalement, 2035-2040, c'est vraiment la période sur laquelle tout se joue, de façon à permettre que tous les véhicules qui vont rouler en 2050, à l'époque où on est censé être à zéro émission de gaz à effet de serre pour respecter les accords de Paris, on y soit. Donc, pour ce faire, effectivement, avoir une ambition dans ce sens, c'est essentiel. Mobilité électrique, c'est effectivement batterie hydrogène. On voit de plus en plus de constructeurs se positionner sur ces deux technologies indépendamment, voire en même temps. Donc maintenant, il va falloir accélérer très fort à la fois les investissements, les capacités de production et toutes les infrastructures.
Alors justement, Xavier Oran, directeur général, délégué général de Mobilience, qui représente donc la filière automobile et notamment par les métiers de la distribution, comment est-ce que les constructeurs qui, année après année, je disais en introduction depuis le Dieselgate, qui ont reçu, j'allais dire, des ordres d'en haut, comme on dit, ben voilà, maintenant vous allez nous faire des moteurs plus polluants, maintenant 2035, terminé, bonsoir, merci. Comment ils le prennent, tout simplement ?
Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire par rapport à ce que Paul et Cécile ont déjà indiqué, mais vous avez reçu un philosophe juste avant nous. Il se trouve que c'était mon professeur lorsque j'étais à la Sorbonne.
Et donc, il vous a aidé à philosopher.
Et en tout cas, une des choses que j'ai gardées de son enseignement, c'est que toute vérité est relative et il faut faire attention à ne pas s'enfermer dans une seule vérité unique. Et c'est pourtant le choix qui a été fait, pour l'instant, par l'Union européenne. La décision du Parlement européen, il y a une dizaine de jours, n'est pour l'instant qu'une consultation. Il reste à ce que le Conseil et puis la Commission européenne puissent trouver, le cas échéant, un consensus qui est souhaitable pour dresser une trajectoire de décarbonation au niveau du continent.
Consultation qui a déjà ébranlé beaucoup de secteurs.
Ça a donné effectivement le absolument au niveau de la teneur des discussions, mais les choses ne sont pas encore totalement jouées. Et pendant que les dés sont encore en train de rouler, je pense qu'il est important de rappeler, et Paul le disait tout à l'heure au niveau des courses automobiles, la voiture, c'est l'innovation. Cette industrie tracte l'innovation depuis des décennies. Et nous pensons qu'il est préférable de laisser cette compétition entre toutes les innovations plutôt que de s'enfermer dans un choix unique qui est aujourd'hui l'électrique, parce que tout simplement, c'est la seule technologie disponible à grande échelle qui permet d'atteindre théoriquement les objectifs qui ont été fixés à l'horizon 2035.
Françoise Rossignol, présidente du Club des villes, les territoires cyclables et marchables, est-ce que la liberté, comme on le dit souvent, c'est la voiture, parce qu'elle permet de vous emmener partout, est-ce que la liberté aujourd'hui en 2022 et plus encore en 2035, c'est le cycle, la marche à pied ou
C'est la marche à pied, le cycle chaque fois que c'est possible. Et le but des élus, des villes, c'est de rendre la marche et le vélo le plus agréable possible par tous les moyens. C'est-à-dire qu'il faut renverser finalement la priorité qui avait été donnée dans nos villes ou à la voiture et où après vélo et piétons utilisaient ce qui restait. Aujourd'hui, il faut se dire comment faire pour qu'il soit agréable de marcher, comment faire pour qu'il soit agréable et possible de faire du vélo en toute sécurité, quitte à contraindre la voiture. Et je crois que c'est cette réflexion qui nous fait envisager la ville de façon différente, pour l'apaiser, pour la rendre plus agréable pour tous. Mais bien entendu, il ne s'agit pas d'éliminer du tout la voiture. Elle a son...
Pour l'instant.
Je pense que ça a été... Bon, alors après, les innovations nous permettront. Mais aujourd'hui, le vélo n'a pas la prétention de remplacer tous les déplacements. Mais par contre, 60% des déplacements faits en voiture font moins de 5 km. Et là, pour le vélo, c'est formidable. Et puis le vélo, bah, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est décarboné.
Ça dépend.
En ville, la
qualité de l'air n'est pas forcément la même. Justement, Paul Belmondo, est-ce que vous utilisez le vélo pour 5 km ?
Pour 5 km, non. Moi, je fais beaucoup de vélo, hein, parce que je fais 10 000 km de vélo par an, parce que c'est un de mes sports favoris. Donc,
c'est côté de famille, vélo, hein, donc, j'allais dire. Voilà,
donc,
c'est
côté
de famille.
Vélo, je n'ai pas de problème. Mais moi, ce que je me rends compte surtout, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une anarchie totale aujourd'hui, véritablement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, par exemple, dans Paris, on décide de mettre des pistes cyclables pour mettre des pistes cyclables, mais pas dans un but réel d'amener quelque chose pour la circulation, pour se déplacer dans Paris. Moi, je fais du vélo. Quand je vois ce matin que je prends la rue de Rivoli en vélo et qu'on a mis toute la rue de Rivoli pour la piste cyclable, alors qu'on est un dimanche matin, donc les gens, normalement, font du vélo, ils sont là, ils profitent du dimanche, et que vous avez seulement... qu'une partie de la piste, vous avez 3-4 vélos qui se baladent. Je ne comprends pas, surtout qu'on sait que la voiture va être plus propre, on sait qu'on va avoir des véhicules électriques, on sait que ces véhicules nous feront moins de bruit, ils seront moins polluants. Pourquoi, d'un seul coup, mettre tout le monde l'un contre l'autre, alors que je pense qu'on pourrait réfléchir d'une manière beaucoup plus à long terme et de faire en sorte que la ville, oui, soit mieux pour les vélos, oui, soit mieux pour les personnes qui veulent se déplacer à pied, et oui, que la voiture puisse se déplacer. Mais quand vous habitez à la campagne et que la ville elle est à 30 km, vous faites quoi?
Bah, ça, François Rossignol n'a pas parlé de la campagne.
Donc voilà, il n'y a pas que
on
Paris.
On va pas faire 30 km à pied.
Il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Toulouse, il n'y a pas que les petites villes. Il y a aussi des gens qui habitent en campagne et qui ont besoin de leur voiture. Et une petite voiture aujourd'hui, et je finirai sur ça, une petite voiture aujourd'hui, ça ne coûte pas cher, ça ne consomme pas beaucoup, les gens peuvent se déplacer, des jeunes couples peuvent acheter une petite voiture. Si vous l'achetez aujourd'hui, une petite voiture électrique, ça coûte excessivement cher et vous ne pouvez pas vous déplacer sur des longues distances.
Là-dessus, Cécile Goubet, petite voiture électrique, c'est vrai que vous prenez une Twingo, par exemple, électrique, et une Twingo non électrique, il y a 15 000 euros de différence à peu près. Alors, 10 000.
Il y a un écart de prix de l'ordre de 10 000 euros en moyenne, effectivement, sur le marché du neuf. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité des Français achètent des véhicules d'occasion. Et sur le marché de l'occasion, notamment dans un milieu rural pour des petits trajets, on peut trouver des véhicules qui sont très intéressants, en ayant en tête, en plus par-dessus, qu'en termes de maintenance, le véhicule électrique, le coût de maintenance, c'est imbattable. Et qu'en rechargeant chez vous, parce qu'en milieu rural, généralement, une simple prise domestique suffit, vous allez rouler pour 2 euros au 100 km. Donc, en termes budgétaires, c'est absolument imparable et c'est une solution dans les déplacements ruraux.
Xavier Oran ?
La part de la voiture individuelle dans les déplacements, la part modale de la voiture, c'est de l'ordre de 85%. La part du vélo est aujourd'hui sous votre contrôle de 3%. L'un des objectifs, c'est de nous amener à 10% à peu près. Et je pense qu'il faut effectivement toujours éviter d'opposer les différents modes de transport entre eux. Ça n'a absolument aucun sens. En revanche, je pense qu'il faut également éviter de projeter sur l'ensemble de nos territoires des problématiques d'hypercentre urbain. La réalité de la géographie en France ou en Europe fait que la majorité de nos concitoyens ont besoin de mobilité individuelle, et particulièrement de la voiture, pour aller au travail, pour accéder à la santé, pour accéder à la culture. Et ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, sur le prix des voitures, et notamment des voitures électriques, là, il y a un sujet qui est énorme, qui est à traiter, qui est complètement devant nous. Parce qu'on parle de produits qui, pour certains, sont produits d'ailleurs en Chine, ce qui pose au passage quand même
un problème
une question,
de souveraineté.
Absolument, en termes de décarbonation, ça pose déjà un certain nombre de questions. L'autre question, c'est évidemment l'accès à la mobilité. La mobilité, c'est un droit fondamental. Le fait de posséder une voiture est complètement corrélé à cette idée de liberté. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention à ce que le cadre réglementaire, qu'il soit européen, national ou local, avec la mise en place des zones à faible émission, ne se traduisent pas par des formes
vous me soulagez parce
d'assignation
que
à résidence.
Je me disais, si le prochain ultimatum, ce ne serait pas d'arrêter, enfin, d'interdire de produire des voitures tout court. Enfin, je dis ça à horizon peut-être 2080 ou 2090.
Si on arrête de produire des voitures, je ne sais pas à quel horizon de temps, mais en tout cas, le secteur automobile en Europe, c'est 15 millions de salariés.
Déjà, vous avez des publicités pour les voitures qui vous disent, à la fin de la publicité, pour les trajets au quotidien, privilégier soit le covoiturage, soit la marche à pied... Soit là, comment ?
C'est un peu étrange parce que ça, enfin, je veux dire, c'est assez paradoxal.
Acheter une voiture, mais vous ne pourrez pas vous en servir.
Voilà, ça revient à dire ça. Donc, je pense qu'il faut relativiser les choses. Il faut surtout changer de lunettes. Je pense que les questions de mobilité sont des questions extraordinairement complexes dans la vie de tous les jours. Et il faut faire très attention à... au dogmatisme et encore une fois à éviter d'opposer les modes de transport entre eux.
François Rossignol qui a chaussé ses lunettes vertes, justement.
Il me semble simplement qu'il faut se dire que chaque fois que c'est possible, il faut utiliser la marche ou le vélo. C'est possible dans les métropoles, mais pas que dans les métropoles. Je suis maire d'une commune de presque 6000 habitants dans la communauté urbaine d'Arras. Bon, on peut aller presque partout avec un vélo électrique parce que l'agglo ne fait pas plus de 15 km de diamètre et que donc il y a toute une série de villes en France où c'est possible. Dans le rural, il faut travailler aussi sur l'intermodalité. Aller à la gare à vélo, prendre le train, etc. Ça, ce sont des choses qu'il faut développer. Et donc, il faut avoir une vision différente des infrastructures, des investissements et y travailler de façon systématique. Et on demande à ce que les collectivités puissent être aidées dans ce travail important. De même que demain, pour le passage à l'électrique, il faudra aussi des investissements des collectivités. Et donc, il faut avoir une vision différente je crois, de la ville, l'apaiser, travailler sur les vitesses aussi, de manière à ce que demain, nous puissions nous déplacer dans les meilleures conditions, dans des villes apaisées, où la qualité de l'air est convenable et où, ensemble, on avancera mieux.
Mais vous dites, c'est assez intéressant, vous dites chaque fois que c'est possible, mais c'est, enfin, il peut y avoir différentes lectures du possible. Ça dépend de l'âge qu'on a, du nombre d'enfants qu'on doit transbahuter, le possible. Je disais, vous pouvez avoir des automobilistes actuellement qui vous disent, je peux le faire peut-être une fois le dimanche, mais...
Je pense qu'il faut quitter l'image du vélo comme étant l'apanage du bobo de centre de métropole. Aujourd'hui, le vélo, on peut le pratiquer... À un certain âge, le vélo électrique a ouvert des portes énormes. Il faut encourager les jeunes à revenir au vélo. Parce que finalement, les jeunes, nos enfants, sont presque ceux qui pratiquent le moins le vélo. Et là, il y a un potentiel énorme. Il faut développer le savoir rouler à l'école. C'est essentiel. Il faut avoir les infrastructures qui vont donner confiance aux parents pour que les enfants puissent aller à l'école, puissent aller au collège, demain au lycée. Et on voit bien que les jeunes ont une vision différente de la voiture, de ce qu'il y avait dans les années 70
ou 80.
Déjà
dans les villes, ils passent beaucoup moins le permis qu'avant.
Ben voilà. Et pour eux, le vélo, peut-être le vélo est une source de liberté. Le vélo est une source de liberté. Et donc ça, il faut, je crois, le développer. Alors, je ne vous dis pas que quand vous faites 800 km sur l'autoroute, vous allez partir à vélo. Il faut de toute évidence avoir une vision globale
des
mobilités.
C'est un débat. Je vois les lignes défaites de Paul Belmondo.
Non, elle n'est pas défaite. J'écoute, mais je trouve ça, ça serait très très bien. Mais aujourd'hui, quand vous habitez dans une ville, par exemple, en proche banlieue, si vous avez un vélo, vous faites comment dans le RER ? Vous le mettez où ?
Ah bah, y a des gens qui mettent le vélo dans le train.
À l'intérieur, oui, mais il n'y a pas d'espace pour les vélos. C'est pas prévu.
Il faut aussi qu'il y ait.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je trouve que tout ça est très bien.
Il faut aussi qu'il y ait des garages à vélo dans les gares.
Hein. Non,
c'est aujourd'hui obligatoire, ça se développe énormément. Les garages à vélo dans les gares, ça devient un équipement indispensable et qui se développe énormément avec les besoins.
Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'exclure complètement, enfin, on essaye d'exclure complètement les voitures des villes, mais on ne fait rien à côté réellement pour solliciter les gens pour se déplacer d'une autre manière. Le problème du vélo dans les RER, c'est bon, même pas la peine d'y penser. Vous voulez prendre un vélo dans le train aujourd'hui, vous prenez un TGV, mais même pas la peine d'y penser. Vous avez seulement des espaces réservés pour les bagages. Et si vous avez un vélo, même dans une housse à vélo, c'est un calvaire monumental. Moi, je le fais parce que je fais du vélo et je me déplace régulièrement. Et je peux vous dire que tout cycliste qui font et qui se déplace et qui veulent prendre un TGV, c'est une galère monumentale. Donc, il y a tout ce genre de choses qui ne sont toujours pas en place. On a bien entendu la finale de Roland-Garros, enfin un match de Nadal qui se termine à minuit. Vous n'avez pas de transport en commun après minuit. Donc, toutes ces choses-là qui ne sont toujours pas mises en place, qui doivent être mises en place. Moi, j'ai des enfants qui sortent la nuit et qui habitent Paris. Parfois, ils attendent jusqu'à 5 heures du matin pour rentrer, pour avoir un train, pour pouvoir revenir chez eux. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas normales. Donc, moi, je vous entends, je trouve ça fantastique, tout ce que vous dites. Mais la seule chose, c'est que j'ai l'impression que les politiques ne font rien. Et à commencer par Mme Hidalgo, qui met des pistes cyclables à tout champ dans Paris, ne fait pas réellement, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui, ben mettez un service pour que les jeunes puissent se déplacer la nuit.
Alors, il y a quand même quelque chose qui ressort de toutes nos discussions, c'est que finalement, c'est pas la voiture, c'est la liberté, c'est la mobilité, c'est la liberté. Mmh. Et que du coup, il y a un réel enjeu à réfléchir en termes d'usage. La mobilité électrique, en fait, c'est un peu en pointillé dans tout ce qu'on dit, mais finalement, les vélos à assistance électrique, les scooters électriques, les voitures électriques, on a aussi des camions électriques, etc., qui arrivent. Donc, on est vraiment dans une électrification massive du transport. Et quand on remet ça, quand même, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, notamment de la France, le transport, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France, c'est le secteur le plus émetteur, 52% c'est les véhicules particuliers. Donc, en fait, tout ce qu'on va pouvoir déclencher en termes de transport en commun, vélo, free-floating, mobilité active, voiture électrique, en fait, ça va contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça ne peut se faire qu'avec une politique globale de transport, d'intermodalité et de réflexion aussi sur l'urbanisme.
Xavier Oran, vous, chez Mobilance, qui avez effectivement les distributeurs et beaucoup d'automobiles dans votre giron, mais aussi les métiers de la mobilité. Comment est-ce que vous faites? Vous
êtes, moi, ma première réflexion rejoint... Ma première réaction rejoint celle de Paul. Nos villes sont des poumons économiques. Donc, quand on parle de Paris et quand on voit les chiffres du commerce dans certains quartiers qui ont littéralement plongé, parce qu'en réalité, il y a des problèmes de trafic qui se posent et d'accès, donc de problématiques du dernier kilomètre,
les gens renoncent.
Ce sont des vrais sujets et on ne peut pas faire de nos villes des sortes de cités interdites. Ça, ce n'est pas possible. La conséquence sera très claire. Ça sera un élargissement de nos fractures sociales et territoriales. Et ça nous mènera à des impasses qui iront exactement à l'inverse de ce qu'on essaye ce sur quoi on cherche à dialoguer autour de cette table, c'est-à-dire de réunir des différentes solutions de mobilité et de constituer un système global de mobilité. Pour l'instant, force évidemment de constater qu'on en est très loin. Il y a les Jeux Olympiques en 2024.
Donc vous ne croyez pas que c'est le vélo cargo de notre ami Arnaud Chéreau qui va remplacer la camionnette
Il y a des réalités. Le vélo cargo est une solution, oui, mais elle n'est pas adaptée, par exemple, à des professions qui, aujourd'hui, sont avec des véhicules utilitaires légers qui vont être confrontés d'ici à 2025 à un changement de leur parc pour tout simplement assurer le service, les prestations, les travaux, les livraisons qu'ils font tous les jours.
Et c'est ce que
dans
leur...
une ville de...
on va leur imposer
pour Paris, bien sûr.
Avec les ZFE, notamment.
Bien sûr, on rejoint la problématique, Cécile a raison, de l'électrification du parc, à quelle vitesse on peut le faire, avec quel type de moyens financiers pour permettre que cet accès à la mobilité électrique soit accessible au plus grand nombre, pour que cette mobilité reste un droit universel. Pour l'instant, il y a, dans cette équation, qui est très difficile, il y a beaucoup plus d'inconnus, hélas, que de réponses. Et Paul a tout à fait raison de dire que la bonne échelle aussi est probablement à changer en termes de gouvernance et d'organisation, parce qu'on raisonne derrière les périphériques, je caricature un peu, mais pas tant que ça, et il nous semble, à nous, chez Mobilance, que la bonne gouvernance serait au moins d'échelle régionale, pour permettre à nos maires, à nos différents représentants, nos différents échelons de collectivités locales, de penser, d'organiser et de financer les infrastructures dont on a besoin, tout en organisant dans l'espace et dans le temps les bonnes solutions de mobilité. Mais dans la vraie vie, Pierre de Villeneuve, tous les jours, je ne pense pas que quelqu'un qui travaille à 20 ou 25 km de Paris puisse imaginer prendre son vélo tous les jours quand il pleut, quand il a les enfants à emmener à l'école, etc. Ça, c'est la réalité aussi, il ne faut pas la nier.
Il y a eu énormément de prestataires qui proposent des vélos en libre-service, Françoise Rossignol. Est-ce que les gens dans les agglomérations, finalement, prennent un vélo comme peut-être par conviction, comme c'est votre cas, parce que finalement c'est bon pour la santé, parce que c'est sympa, etc. Ou est-ce qu'ils le font parce que finalement ils arrivent quand même beaucoup plus vite en voiture à cause des restrictions pour les voitures? Est-ce qu'ils le font par contrainte finalement?
De toute manière, je pense qu'on prend toujours le moyen qui, au bout du compte, sera le plus pratique et le plus agréable. On est souvent prêt, d'ailleurs, à faire un trajet un peu plus long parce qu'il est plus agréable. Et donc, c'est cette équation qu'il faut, qui doit transformer la ville. Si il faut, dans une ville très dense, il faut du free-floating, il faut du libre-service. Dans une ville moyenne, c'est d'autres solutions.
Est-ce que c'est pas je prends mon vélo parce que je n'y arriverai pas en voiture?
Ou parfois, je prends ma voiture parce que je ne peux pas faire autrement. Vous voyez, l'argument, vous pouvez le retourner exactement de la même façon. Je pense que ce qu'il faut essayer de voir, c'est au global, la ville, comment elle va accueillir l'ensemble des usagers. Bon, et on a quand même l'expérience des quartiers piétons. Ce ne sont pas des catastrophes économiques. Souvent, ils sont installés avec la résistance de beaucoup de commerçants et d'usagers. Puis, quelques années après, on s'aperçoit que ce sont les rues les plus fréquentées et qui fonctionnent le mieux sur le plan du commerce. Donc, il faut avoir une vision, je crois, globale des mobilités et d'une ville agréable à vivre.
Paul Belmondo, il y a un musicien célèbre qui est le batteur des Floyd, Nick Mason, qui a une collection absolument inouïe de Ferrari. Il s'est fait construire, je crois, il y a une vingtaine d'années, un circuit. Donc le matin, il se lève, il a énormément d'argent, bien sûr. Hein, c'était un cas. Et il conduit sa Ferrari sur son circuit. Est-ce que la voiture, aujourd'hui, ne va pas devenir comme le cheval, dans les années 1910, un hobby pour des gens extrêmement riches qui vont pouvoir finalement prendre leur voiture pour faire mumuse sur des circuits, et puis finalement on va tous rouler à vélo ou dans des vélos cargo, des vélos j'allais dire customisés, électriques.
Mais ça c'est déjà le cas aujourd'hui, parce que de toute manière avec les limitations de vitesse sur les routes, et c'est normal, et il n'y a pas à discuter là-dessus bien sûr. Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent leur voiture, vont sur des circuits avec des clubs, vont se faire plaisir et s'amusent pendant une journée.
Et ça sera le cas d'ailleurs avec le Mans Classic.
Exactement, les clubs qui viennent, ils le font dans un cadre de sécurité. Il n'y a pas de danger pour les piétons, pour les cyclistes, et ils sont entre eux, et c'est très bien. Et là-dessus, moi, je trouve à la limite, c'est une très bonne chose. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème, il y a pas de problème là-dessus. La seule chose, c'est que j'aimerais voir qu'il y ait une vraie organisation et qu'il y ait un vrai discours entre tout le monde pour pouvoir justement avancer dans ce sens-là. Parler aux gens du théâtre aujourd'hui à Paris qui est complètement sinistré, parce que justement c'est devenu un vrai problème d'aller au théâtre le soir à Paris, parce que les gens sont stressés, parce qu'ils doivent rentrer, ils ne peuvent plus garer leur voiture, et s'ils doivent garer leur voiture, ça leur coûte une fortune, parce que Paris, il ne faut pas oublier, c'est beaucoup de gens de la banlieue qui viennent le soir dans les restaurants et dans les théâtres, et aujourd'hui ils en souffrent. Donc toutes ces choses-là, voilà, il ne faut pas l'oublier.
On aura l'occasion d'en parler. Merci à vous quatre. Merci à Cécile Goubet, Françoise Rossignol, Arnaud Chéreau et Xavier Oran. Le sport, tout de suite, avec Monsieur Chasseur, Cédric de son prénom. Ça va, Cédric?
Bonsoir, Pierre. Ça va très bien, avec un programme alléchant, un menu copieux. Ce soir, de nombreuses interviews. Richard Gasquet avant le début de Wimbledon demain. On parlera également avec Michael Jérémiaz de son documentaire qui passera ce soir sur Canal+, We Are People, sur l'évolution de la place des personnes handicapées dans la société. On parlera du Tour de France avec Bernard Thévenet, Tour de France qui commence vendredi, et puis on parlera de foot également. On a des consultants prêts, chauds, dispo à débattre avec nous.
Merci Cédric.